Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Les images de la lumière et des ténèbres prennent une place importante dans la Bible. Yann et son invité Étienne vont expliquer leur signification.
Quelques émissions auparavant, nous avons réfléchi sur le sens de l'image biblique du berger. Nous avons cherché à comprendre les vérités spirituelles enseignées par cette image et nous en avons tiré des leçons pour aujourd'hui. À présent, nous allons entamer une série de discussions sur deux autres images que l'on retrouve souvent dans la Bible, celle de la lumière et des ténèbres. La lumière est indispensable à nos vies. Grâce à elle, notre monde est éclairé et nous pouvons accomplir tous les gestes de la vie quotidienne. Privés de lumière, nous aurions du mal à réaliser les actes les plus simples. Grâce à la lumière, nous pouvons apprécier la beauté de la création. Nous pouvons nous déplacer facilement et être conscients des dangers qui nous entourent et les éviter. Aujourd'hui, Étienne, notre invité, va nous parler de l'image de la lumière à travers la Bible. Bonjour Étienne.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Et merci pour votre invitation. Pour commencer notre étude sur l'image de la lumière, il serait bon de citer quelques versets de la Bible. Yann, pouvez-vous les lire ? Il s'agit du psaume 27, verset 1, et ensuite de la première épître de Jean, au chapitre 1, le verset 5.
Oui, dans le psaume 27, David déclare « L'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ?» Puis l'apôtre Jean affirme « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. » Dans le premier écrit de la Bible, la Genèse, nous apprenons que Dieu a créé la lumière. Oh, dans ces versets lus, nous découvrons que Dieu lui-même est lumière. Comment devons-nous comprendre cette image ?
Il s'agit effectivement d'une image. Les auteurs bibliques ont ainsi choisi une image à la portée de tous et ils s'en sont servis afin de nous aider à mieux comprendre le Dieu invisible. Vous avez évoqué tout à l'heure la place que la lumière tient dans nos vies. Et cela va nous aider à comprendre le sens de cette image biblique. Vous avez dit, je pense, que la lumière nous permet d'apprécier la beauté de la création.
Oui, c'est exact.
Alors, la première idée que je voudrais souligner est celle-ci. Si Dieu est lumière, c'est qu'il est lui-même parfait. Et il nous permet d'apercevoir quelque chose de sa perfection. Dieu est parfait dans sa majesté et sa gloire. Il est parfait dans sa puissance et sa sagesse. Dieu est également parfait dans sa justice et sa pureté. Sa perfection naît de son amour et sa grâce. Dieu est parfait dans toutes ses qualités. Nous ne pouvons pas toutes les énumérer aujourd'hui. Mais sachez-le, la perfection de Dieu est incomparable. Et il n'existe pas de mots pour la décrire. C'est pour cela que Jean a tout simplement dit « Dieu est lumière ».
Vous avez dit que non seulement Dieu est parfait, mais qu'il nous permet d'apercevoir sa perfection.
Oui, imaginons que nous soyons enfermés dans une pièce obscure avec un objet d'art. Tant que la lumière ne pénétrera pas dans la pièce, nous ne pourrons apprécier la beauté de cet objet. Quand la Bible dit que Dieu est lumière, elle affirme non seulement que Dieu est parfait, mais qu'il se révèle à nous. Il nous fait connaître tous ses attributs, il nous dévoile la perfection de ses œuvres.
Mais Dieu, comment se révèle-t-il? Et comment est-il possible de concevoir à quel point il est parfait? Puisqu'il est invisible.
Tout d'abord, nous pouvons admirer la perfection de Dieu à travers la beauté de la création. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans son épître à l'église de Rome, « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. » Ensuite, Dieu s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous contemplons Jésus, c'est la magnificence de Dieu que nous voyons. Car en Jésus, nous découvrons la justice et la pureté de Dieu. En Jésus, nous voyons la puissance de Dieu se manifester. En lui, nous comprenons la grâce et l'amour parfait du Dieu invisible. L'apôtre Jean a d'ailleurs écrit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. »
Mais comment contempler Jésus que nous ne pouvons voir ?
En effet, Dieu se révèle par sa parole, la Bible. C'est donc à travers les écrits des prophètes et des apôtres que nous apprenons à le connaître. En lisant les évangiles, nous pouvons contempler la beauté de l'œuvre de Jésus. Dieu est lumière. C'est pourquoi il peut ouvrir notre intelligence aux choses spirituelles et il nous accorde ainsi le privilège de le rencontrer et de comprendre qui il est.
En parlant de l'importance de la lumière, j'ai rappelé que sans elle, nous ne pourrions nous déplacer ou nous diriger facilement. Sans lumière, nous risquerions de trébucher ou d'heurter des obstacles. Que pouvons-nous apprendre de cet exemple sur le plan spirituel?
La Bible dit dans le psaume 119 « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Nous pourrions ainsi comparer notre vie à un voyage. Or, tout voyage a une destination en vue. Et afin d'y parvenir, nous devons décider quel chemin prendre. Nous avons des choix à faire dans la vie. Et nous y rencontrerons des dangers et des périls qu'il faudra surmonter. Selon la Bible, nous ne pouvons réussir notre voyage sans la lumière de Dieu, car c'est elle qui va éclairer notre route. Lorsque la Bible déclare que Dieu est lumière, elle affirme que Dieu nous révélera tout ce que nous avons besoin de connaître sur le plan spirituel. Dieu, par sa lumière, nous révèle des choses que, sans sa grâce, nous ignorerions. La lumière représente dans ce psaume toutes les vérités spirituelles que Dieu choisit de nous faire connaître. Elle représente aussi la sagesse divine qu'il met à notre disposition. Ces vérités et cette sagesse sont à découvrir dans la Bible, décrites dans le psaume 119 comme une lampe qui guide nos pas. Cette lampe, la Bible, éclaire notre chemin en ce qu'elle apporte des réponses aux questions profondes de la vie. Elle élucide bien des mystères qui peuvent nous troubler. Elle nous met en garde contre les dangers qui pourraient gâcher nos vies.
Merci Étienne. J'ai remarqué dans le verset cité tout à l'heure que l'apôtre Jean déclare « Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres ». Que veut dire la Bible quand elle parle des ténèbres?
Voilà le sujet de notre prochaine discussion. Que veut dire la Bible quand elle parle des ténèbres? Nous pouvons dire que si l'apôtre Jean affirme qu'en Dieu il n'y a pas de ténèbres, il s'agit là pour lui d'une façon de souligner la perfection de Dieu et de prouver qu'en lui rien ne peut entacher cette perfection.
Merci Étienne. Dieu est lumière. Il nous révèle par là même sa perfection et il nous fait connaître tout ce dont nous avons besoin d'apprendre sur lui. Quelle grâce! Nous avons un Dieu qui vient vers nous quand il désire se faire connaître.
C'est merveilleux. Le Dieu de l'univers ne demeure pas caché. L'étude aujourd'hui me fait penser à un psaume de David où il s'exclame « Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? »
Il est vrai que devant la beauté et la puissance du monde naturel, nous pouvons nous sentir petits, faibles et insignifiants.
Et pourtant la Bible affirme que, malgré tout, l'Éternel pense à nous.
Et il pense même très fort à nous. Non seulement il nous révèle ses perfections, mais il a envoyé pour nous un sauveur, le Seigneur Jésus. À présent, Charles va continuer la série de méditations bibliques portant sur les paroles de Jésus, connues sous le nom des Béatitudes. Mais d'abord, Hélène va nous lire l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 6.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés.
Que signifie avoir faim et soif de justice? Nous avons appris la dernière fois que cette soif nous incite à vouloir nous réconcilier avec Dieu, à renouer avec lui une relation parfaitement juste. Or cela n'est possible que par la foi en Jésus-Christ, auprès de qui nous recevons le pardon de nos péchés, grâce à son œuvre accomplie sur la croix. En jouissant ainsi à nouveau des bénédictions de Dieu, nous serons comblés et rassasiés. Mais notre soif de justice devrait-elle en rester là? Non, car notre soif de Dieu doit continuer à s'exprimer par notre désir de marcher de façon juste devant lui. Que signifie marcher de façon juste devant Dieu? Dieu aime la justice. Et si nous aimons Dieu, nous devons à notre tour aimer la justice comme lui l'aime. Or, aimer la justice, c'est haïr et vouloir bannir de notre vie tout ce que Dieu est. C'est aussi vouloir aimer tout ce que Dieu aime en cherchant à mettre en pratique sa parole. Dans la loi de Dieu, révélée à Moïse, nous découvrons les actes, les attitudes et les comportements que Dieu condamne. La parole de Dieu nous enseigne aussi quelles sont les voies que nous devons suivre, afin que nous lui rendions gloire par nos œuvres et nos pensées. Comment éviter de tomber dans le piège de l'injustice? Écoutons pour cela les paroles de l'apôtre Paul écrites aux Galates. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Nous marchons de façon juste devant Dieu si ces qualités, les attributs qui le caractérisent se voient dans nos vies. Autrement dit, rechercher la justice de Dieu, c'est vouloir ressembler à Jésus. C'est aspirer à reproduire sa bonté, son amour pour les autres et à marcher dans la sainteté. Voilà quel doit être notre désir. Mais comment progresser vers cet idéal ? Car trop souvent nous sommes attristés de tomber dans le péché. Selon la Bible, nous ne devenons pas parfaits du jour au lendemain. Alors il nous faut au quotidien rechercher la justice. Les belles qualités évoquées tout à l'heure par l'apôtre Paul sont le fruit de l'Esprit. Nous devons faire appel à l'Esprit de Dieu, lui demandant de nous aider à croître en lui pour porter des fruits à sa gloire. Si nous cherchons à mieux agir par nos propres efforts, inévitablement nous nous heurterons à l'échec. Mais si nous cherchons le secours de l'Esprit de Dieu, alors nous ferons des progrès. Nous marcherons davantage selon les voies de Dieu et pratiquerons sa justice. Comment favoriser l'œuvre de l'Esprit dans nos vies? En en faisant une priorité dans nos prières. Citons pour conclure quelques versets de l'Évangile de Luc, chapitre 11, versets 11 à 13. « Il y a des pères parmi vous. Lesquels d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. »
Charles vient de lire un verset formidable. Ce dont nous avons le plus besoin pour progresser dans la vie chrétienne, c'est du Saint-Esprit. Oh, Dieu est comme un bon Père qui ne manquera pas de donner généreusement à ses enfants tout ce dont ils ont besoin. Alors, n'hésitons pas à nous approcher de Dieu pour lui demander ce cadeau précieux, celui de recevoir le Saint-Esprit.
Merci, Yann. Je vous rappelle que la prochaine fois, nous méditerons sur ce que la Bible nous enseigne lorsqu'elle parle des ténèbres. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.